Vous avez reçu à cette occasion le prix Matei Dogan, dont la cérémonie de remise du prix a eu lieu le 29 novembre dernier. Pour rester dans le présent tout de suite, c'était comment cette cérémonie? Ça s'est bien passé?
Ça s'est très bien passé. Et ils nous ont bien accueillis, moi et l'autre lauréat, parce que nous étions deux personnes à avoir vu attribuer ces prix. Et c'était à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et avec les gens de la Fondation Matei Dogan qui soutient un peu la jeune recherche. Et d'ailleurs, c'est très encourageant d'avoir ce type de prix à la fin de la thèse parce que bon, ça dure longtemps, on ne voit pas vraiment les résultats immédiats quand on finit une thèse. Et ben, c'est très encourageant aussi pour poursuivre ces sujets de recherche.
D'autant que oui, vous n'êtes pas que thésarde, ancienne thésarde, puisque vous travaillez aujourd'hui, en tout cas, au département des langues à l'université Rennes 2. Oui. Donc c'est aussi un autre temps à prendre en compte.
Oui, en fait, j'ai toujours travaillé pendant la thèse et je n'avais pas de contrat doctoral. Et donc j'étais toujours salariée et je travaillais avant à Sciences Po Rennes et ensuite à Rennes 2. Et toujours comme enseignante de langue, d'espagnol et d'histoire d'Amérique latine. Donc je donne des cours un peu de bon, 19e, 20e, 21e siècle, actualité aussi, culture, langue, voilà. Mais surtout très axé sur l'Amérique latine. Et ça a été quelque chose que je fais toujours en parallèle avec la thèse, avec la recherche. Donc c'est vrai que c'est un peu dans mes habitudes quoi, de partager mon temps entre l'enseignement et la recherche. Et c'est aussi intéressant de le faire. Et ça prend beaucoup d'énergie. Hein. C'est vrai que c'est, des fois, on dit pour une thèse, c'est bien d'avoir un contrat doctoral et d'avoir un soutien financier. Mais je trouve que le fait de travailler en même temps, c'est enrichissant aussi. Et même l'enseignement et tout ce qu'on apprend avec les étudiants, ça sert aussi à nos recherches.
Dans la manière d'écrire, en tout cas, la thèse, c'est-à-dire d'exposer son sujet dans la pédagogie de la thèse?
Oui, je pense qu'au niveau du format ou de la pédagogie de la thèse, ça se voit des fois dans l'écriture. Mais c'est aussi la façon de penser les sujets, des fois la manière de prendre du recul face à des problématiques spécifiques. Et je trouve que les étudiants et cet échange avec les étudiants, ça m'a toujours transmis aussi cette façon de réfléchir, de penser un peu au sujet différemment, parce qu'on n'est pas tous pareils. Moi, je respecte beaucoup, j'aime beaucoup cette horizontalité dans la salle de classe, non, d'écouter les étudiants, de voir comment ils réfléchissent à certains sujets. Et je pense que cet échange a été très riche pour ma propre réflexion au niveau de l'écriture. Ouais.
Et la thèse, c'est beaucoup de temps. C'est ça peut faire peur parce que on n'est pas obligé quand on est étudiant de faire une thèse. C'est un parcours de doctorant, mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a beaucoup de satisfaction quand on sort de la thèse, quand on la soutient. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui hésitent, par exemple, entre un parcours de thésard et un parcours plutôt pour l'enseignement?
Bah, moi, je pense que les deux choses peuvent aller bien de la main. Et c'est vrai que oui, c'est un temps long. Et après, ça dépend des gens. Bah, c'est-à-dire que si on a un financement, peut-être ça peut aller plus vite. Et moi, dans mon cas aussi, j'étais mère. J'ai eu mon petit enfant à la fin de la thèse. Donc, ça a pris encore plus de temps que prévu. Donc, il y a toutes ces choses, un peu la vie quotidienne, non, qu'il faut aussi prendre en compte. Mais non, je pense que c'est faisable, en fait. Et au niveau du temps, c'est vrai que les thèses en sciences sociales, en humanité et sciences sociales, sont un peu plus longues. Ça requiert beaucoup de temps, de réflexion. Il y a des gens qui vont plus vite dans l'écriture, par exemple, d'autres qui prennent plus de temps. Mais j'encourage souvent les étudiants à se lancer dans cet exercice. Après, par exemple, moi, dans mon cas, moi, j'ai commencé un sujet de thèse et c'était un sujet que je connaissais, bien sûr, mais ce n'était pas le sujet que j'avais travaillé dans mon master, dans ma mémoire de master. J'avais fait une mémoire de master en anthropologie au Chili et je travaillais avec des communautés mapuches. Et c'est vrai que là, dans ce terrain, j'ai eu un peu l'aperçu de l'histoire de la réforme agraire sur le terrain. Mais ce n'était pas le sujet dans lequel je travaillais. Donc c'est vrai que quand on démarre une thèse avec un sujet qui est nouveau, effectivement, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, le temps d'avoir les bonnes références bibliographiques, de trouver un peu les grillages, les outils théoriques aussi pour penser le sujet. Ça, c'est quelque chose qui évolue tout au long de la thèse. Et pour certaines gens qui travaillent, par exemple, déjà un sujet de mémoire, si c'est lent sur la thèse, peut-être ça va aller plus vite, ce schéma de retrouver un peu le schéma théorique pour aborder le sujet. C'est une démarche qui va aller plus vite. Si on a déjà un peu les bases, on connaît déjà un peu le sujet. Donc, la chronologie ou le temps de thèse, ça varie, en fait, par rapport à chaque parcours.
Je vais reprendre tout bêtement l'intitulé du prix Mattei-Dogan, hein, qui donc est décerné tous les deux ans, depuis 2009, à une thèse de doctorat traitant d'un sujet d'histoire sociale. Et on en parlait tout à l'heure, il faut que ça porte sur la France ou un ou plusieurs pays étrangers par rapport à un sujet transnational. Mais la France est toujours là. Oui. Vous avez choisi le lien entre la France et le Chili au moment de cette réforme agraire, notamment Charles de Gaulle qui voyage, qui fait un long voyage à travers toute l'Amérique latine. Mm-hmm. Pourquoi vous avez choisi ce sujet ? Je sais que vous avez un lien, par exemple, avec le Chili. Vous êtes originaire du Chili.
Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est un terrain, c'est mon terrain. Et je connais bien le Chili. Et c'est aussi que je travaillais dans un projet de recherche sur les archives, les réseaux de coopération entre la France et le Chili. Et c'était un projet financé par la MSHB, et dans lequel je travaillais en tant que chargée d'émission pendant un an. Et le projet était dirigé par la personne qui allait devenir ma directrice de thèse, Jimena Obregón. Et donc, quand nous avons commencé ce projet, nous avons trouvé des archives personnelles, privées, d'un ex-coopérant agronome qui avait participé à la réforme agraire. Et donc, on s'est dit, là, il y a un sujet intéressant. On parle beaucoup de la réforme agraire. Elle est bien connue, bien étudiée au Chili. Mais je n'avais jamais entendu parler des étrangers dans la réforme. Et j'imaginais qu'il y en avait, bien sûr, mais je n'avais pas rencontré des gens qui avaient participé directement, qui avaient travaillé surtout dans les institutions centrales de la réforme agraire. Donc, dans le cas de ce monsieur, monsieur Lahaute, et il a travaillé à la CORE, la Corporación de Reforma Agraria, et c'était une institution clé qui menait l'expropriation des terres aux grands propriétaires terriens. Et ils expropriaient et ils distribuaient les terres en parcelles, voilà, pour la paysannerie. Et ils organisaient aussi les coopératives de production. Donc c'était l'organisation, la distribution de terres et l'organisation de la paysannerie pour mettre ces terres en production. Donc je trouvais très intéressant de voir déjà des gens qui... Bah, lui, il avait décédé, sa femme s'occupait de ses archives, mais je commençais vite à reconstruire le réseau. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'IRAM, l'Institut de Recherche et d'Application des Méthodes de Développement. Et donc c'était eux en fait qui étaient un peu les vecteurs de cette coopération. C'était un bureau d'études qui a différentes facettes, qui est multidimensionnel, je dis dans la thèse, parce que c'est aussi un réseau militant tiers-mondiste qui travaillait en Afrique dans des projets de développement agraire et dans l'organisation paysanne aussi. Et donc, eux, ils partent au Chili, c'est leur premier chantier, on va dire, latino-américain. Et donc, c'était une participation qui était importante et il n'y avait pas de traces dans la bibliographie chilienne. Donc je me suis dit, c'est un sujet à explorer et je ne savais pas trop en fait quels allaient être le résultat de cette recherche. C'est-à-dire, je commence par étudier ce qu'ils ont fait et ensuite, je me suis rendu compte qu'ils détenaient des informations, de la documentation très riche en fait, qui était un peu éparpillée au Chili. Des documents de travail de la CORA, d'autres institutions qui s'appellent INDAP, et c'était des documents de travail de l'époque. Donc on voyait un peu la réforme agraire en marche, en train de se faire, et on voyait dans cette documentation tous les débats idéologiques, les débats politiques, de comment organiser la paysannerie, pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas. Voilà, toute cette discussion en fait technique, mais qui est très politique aussi. C'est pour ça d'ailleurs le titre de la thèse, c'est « Expertise et politique », parce que l'un va de la main avec l'autre.
Oui, parce que c'est un sacré coup de force déjà de Charles de Gaulle qui est détesté par les États-Unis dans l'après-guerre. Et justement, est-ce que la réforme agraire, elle passe aussi par la mécanisation, l'artificialisation des sols, parce que c'est ce qui a suivi l'après-guerre en France. Est-ce que ces méthodes-là, elles ont été importées au Chili, ou la réforme agraire, elle est surtout sociale, comme vous dites, justement, répartition des terres? Parce qu'aujourd'hui, en effet, en Amérique latine, la mécanisation, la mondialisation de l'agriculture, elle est très visible. Est-ce que déjà, à cette époque, c'est comme ça?
Non, en fait, c'est un stade, on va dire, précédent. Et c'est-à-dire que l'état de l'agriculture à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des entreprises privées, de l'agriculture un peu modernisée, pas beaucoup, on va dire, dans les années 60, mais il y avait une grande partie qui était... en fait, c'était ça la principale raison. À la base, c'était une raison économique. C'est-à-dire qu'il y avait une improductivité dans l'agriculture, donc il fallait réformer. Et d'ailleurs, la réforme agraire, elle commence par l'impulsion de l'Alliance pour le progrès. C'était un programme états-unien qui voulait empêcher des nouveaux foyers révolutionnaires comme celui de Cuba et les empêcher un peu parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait un problème de distribution des terres et il y avait un mécontentement de la paysannerie finalement. Et donc, ils ont impulsé cette réforme qui était vraiment très techniciste, on va dire, non, très technique au début. Ce qui est intéressant, c'est que le processus, il prend l'ampleur, en fait, et la paysannerie va vite. C'est ce que j'appelle une réforme de haut en bas. Ça vient de l'État, il y a les institutions de l'État, c'est très cadré, non? Mais ce qui s'est passé au Chili, c'est que finalement, la paysannerie s'est appropriée de la réforme et ils étaient fortement mobilisés, hein, pour finalement la faire sienne, quoi. Donc, et c'est très intéressant parce qu'on voit l'évolution, finalement. Et finalement, la fin, c'était une fin très abrupte, c'était une fin très violente avec le coup d'État. Mais pendant l'unité populaire, par exemple, la paysannerie a eu une place très importante et au niveau des décisions politiques. Il y avait les conseils paysans, los consejos campesinos, qui marchaient au niveau de région et au niveau national. Et des provincias aussi. Et l'idée, c'était vraiment que les paysans décident quelles sont les terres qu'il faut maintenant exproprier, qu'est-ce qu'on va faire avec ces terres-là, quelle sera la ligne de production, c'est-à-dire tout ce qui était de la matrice productive, non? Et c'était vraiment dans les mains des paysans. Donc ça, c'était vraiment nouveau. Donc moi, je pense que c'est plus, comme vous avez dit tout à l'heure, une réforme au niveau social, politique. Et la partie productivité, on a pu la voir, mais le problème, c'est que la réforme agraire en elle-même est courte, parce que la loi de 67, c'était la deuxième loi de réforme agraire, mais celle qui vraiment a permis la syndicalisation paysanne et tout ça. Et si on pense de 1967 à 73, il n'y a que 7 ans. Donc on n'a pas vu finalement le résultat de cette réforme. C'est pour ça qu'on dit que c'est une réforme qui a été stoppée. Est bloqué, on n'a pas pu voir son développement complet. Mais juste pour la période concernée, il y a eu énormément de changements au niveau du monde paysan, finalement. Et la syndicalisation, ça a été vraiment un changement social et politique pour les paysans au Chili.
Et la date, elle est très symbolique, vous le dites en effet, Allende, le coup d'État a eu lieu il y a 50 ans cette année. Est-ce que, au-delà du symbole, la réforme agraire, avec la syndicalisation du monde paysan, est-ce qu'elle aussi, elle a contribué à la chute d'Allende? Est-ce que ça a fait peur aux États-Unis, cette réforme agraire?
Plus qu'aux États-Unis, la réforme agraire, il y a beaucoup qui a été écrit là-dessus. Hein, il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé sur la furia, non? La haine de la part des grands propriétaires au Chili envers cette paysannerie qui ose
prendre le pouvoir un peu par elle-même.
Parce que finalement, oui, c'est que dans cette distribution des terres et cette mise en productivité des terres, il y avait aussi les changements de relations de pouvoir au sein de la société chilienne, qui était une société très, comme on appelle, latifundiste, très ancrée dans les valeurs de latifundio, de l'hacienda, non?
C'est-à-dire les grands propriétaires terriens,
avec
oui.
Les paysans qui habitent sur place, mais qui sont payés en jornales, voilà.
Et, oui, c'est le cycle, la boucle un peu
Alors, un système...
Certains disent que c'est un système esclavagiste, c'est-à-dire qu'en fait, on paye le patron pour rester sur la terre. Enfin, c'est un système...
On peut dire semi-féodaliste. Bon, voilà, il y a plusieurs étiquettes. Hein. Moi, je suis pas
féodaliste,
dans cette...
c'est mieux, peut-être. C'est vrai qu'on a, on a des éléments de comparaison avec le XIIIe siècle, par exemple.
Oui, mais après, ça varie. Hein. Ça varie énormément. Ça dépend de la région du Chili où on regarde. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même... ce désir d'émancipation, finalement, d'émancipation paysanne. Et tout au long du XXe siècle, il y a eu des organisations paysannes qui ont vraiment lutté contre ça, contre ces injustices, finalement, à la campagne. Et le rapport des forces, finalement, se retrouvait plus fortement dans les années 60, où il y avait une espèce de convergence, je veux dire, de la part des experts internationaux, par exemple, des organisations comme la CEPAL ou la FAO, qui étaient aussi d'accord pour lancer ces réformes du foncier. Et en bas, on voit les organisations paysannes qui bougent aussi, non, qui veulent poser leurs demandes face à l'État. Mais c'est un processus très intéressant. Il y a beaucoup qui a été écrit sur ça. Donc moi, je pense que pour revenir à la question sur les coups d'État et la relation avec le coup d'État, on dit que la réforme agraire, effectivement, ça a été un des déclencheurs. Je ne pourrais pas vous dire dans quelle mesure. Est-ce que moi, je le pense? Oui, je crois que ça a été un facteur important. Surtout au sud, on dit vraiment que la violence déjà précède le coup d'État. Hein, la répression a commencé bien avant le 11 septembre. Et quand on voit les cas dans par exemple l'Araucanía, Los Lagos, plus au sud même, et c'est vrai que cette violence, cette répression envers la paysannerie a commencé avant le 11 septembre. Et il faut dire aussi que au moment du coup d'État, la paysannerie a payé cher. Et c'est
sa prise de contrôle, en tout cas.
Voilà. Oui, oui. Et ils ont été chassés. Il y a beaucoup de paysans détenus, exécutés, torturés. Et ensuite, il y a tout un processus de contre-réforme, donc de défaire ce qui a été fait par Pinochet. Et la CODE a été dissolue quelques années après, en 79, mais il y a eu un processus de distribution de parcelles à certains paysans, à exception de ceux qui avaient participé en tant que dirigeant social, par exemple. Donc il y avait quand même une punition importante pour ceux qui avaient participé. Et ça a changé complètement le système foncier au Chili et la base économique de l'agriculture. Donc c'est une autre étape, c'est pas dans la thèse, mais bon, c'est les antécédents, quoi.
Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, Daniela Duran? Par exemple, au Chili, il y a eu un tournant, par exemple, avec l'élection de Gabriel Boric. Alors, les relations ne sont pas toujours faciles, par exemple, avec certains peuples chiliens. Ça s'est vu dans l'actualité. On a eu aussi eu un sommet qui a réuni les dirigeants d'Amérique latine sous le biais de Lula en mai 2023. Et puis bien sûr, dans l'actualité, il y a aussi eu l'élection de Javier Milei qui a forcément des répercussions. C'est quoi votre avis un peu sur cette actualité récente, sur ces dernières années?
Ah, c'est compliqué. Je ne suis pas très optimiste, à vrai dire. Et, non, je pense que nous sommes face vraiment à une vague... réactionnaire en Chili, un peu dans la région aussi, hein, et c'est pas que dans le Chili.
Surtout alors Boric a gagné contre un candidat pinochiste, c'est ça je crois le mot. Hein.
Ouais, en fait pinochetiste on va dire.
Pinochetiste, voilà.
Et c'est la partie la plus, c'est l'extrême droite chilienne qui...
Et qui a sa place dans la Chambre des députés, hein, si je comprends bien.
Ils ont même eu la majorité pour ce qui est le Conseil constitutionnel, l'organisme qui va rédiger, normalement, qui a rédigé déjà un deuxième brouillon de constitution qui sera voté le 17 décembre. Le 17 décembre, donc dans quelques jours. Dans quelques jours. Et non, c'est compliqué. C'est pas facile à analyser, en fait. Moi, je trouve que, oui, si bien on voit la gauche qui est arrivée au pouvoir, je me demande si vraiment c'est la gauche qui a le pouvoir au Chili. Et c'est ça la question, finalement. Moi, je pense que après la révolte sociale de 2019, il n'y a que 4 ans depuis tout ça, mais il y a énormément de choses qui arrivent et ça va très vite en fait. Les scénarios politiques changent énormément, c'est très... Il y a beaucoup d'analystes qui parlent de cette réalité un peu liquide, donc on n'arrive pas à cerner, à capter bien. Ça change beaucoup, c'est très flou des fois. Et moi, je pense que bon, il y a eu ça, il y a eu la pandémie, il y a eu la crise économique après. Nous sommes face aussi à une situation migratoire assez compliquée. Donc il y a beaucoup de situations qui font que les gens sont un peu, je ne sais pas si désespérés c'est le mot, mais c'est compliqué. Hein. C'est un scénario très délicat, je trouve, à analyser. Et ce que vous avez dit par rapport au peuple autochtone, c'est intéressant parce que et je pense qu'on avait des attentes par rapport à la gauche, qui est la gauche puisse d'une certaine manière améliorer les relations entre l'État et les peuples indiens. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que...
Les tensions sont toujours là, visiblement.
Les tensions sont toujours là. Et il y a aussi une polarisation forte, même dans les mouvements Mapuche, par exemple, où on a durci un peu le discours. Et la gauche chilienne, finalement, se retrouve sans trop d'outils, j'ai l'impression, à pouvoir comprendre, finalement. C'est assez compliqué comme scénario. Je trouve qu'on est dans une situation très délicate. C'est pour ça que je disais pas, je suis pas très optimiste. Je suis peut-être optimiste dans le sens que, ouais, je pense qu'il y a des choses à faire, ça c'est sûr. Et alors, est-ce qu'on a la marge pour le faire dans un scénario critique, une crise économique, avec beaucoup d'inflation ? C'est compliqué.
Le temps passe à toute vitesse, Daniela Duran. Merci beaucoup d'être intervenue au micro de SILAB.
Merci à vous.
Et espérons que cette thèse ait un rayonnement important. Hein. C'est toujours les thèses, c'est parfois compliqué de les mettre en lumière. En tout cas, le prix Matei Dogan peut y participer, ça c'est sûr.
Oui, j'aimerais bien pouvoir la publier déjà et essayer aussi de voir la publication au Chili, de voir la possibilité de publier au Chili. Et ouais, je pense que c'est un beau projet.
À la prochaine alors.
Merci beaucoup.